Bonjour Luc.
Bonjour Jean-Sébastien.
On est à quelques jours d'un avertissement de chaleur accablante dans la région.
Oh.
Et pour faire un lien très facile, il n'y a pas seulement la chaleur qui est accablante, mais également le rapport de la vérificatrice générale
oui.
de la ville de Sherbrooke, qui hier a déposé son rapport et qui pointe du doigt plusieurs dossiers, dont Valoris principalement.
Et il faisait chaud hier soir au conseil municipal.
Merci d'avoir pris la balle au bon.
La suite dans les idées.
C'est excellent.
Alors oui, rapport accablant. Pour Valoris de la part de la vérificatrice générale. Et elle fait plusieurs constats là, là-dedans. Quand elle nous dit, bon, à Valoris, pendant des années, ça a été la culture de la dernière minute. On parle de manque d'informations transmises au conseil d'administration. On parle de budget qui ne reflétait pas la réalité. On parlait de surplus alors qu'il y avait des déficits. On dit que des dépassements de coûts de contrat, des chèques émis à des fournisseurs, qui n'ont pas été nécessairement approuvés par le conseil d'administration. Alors, pendant des années, on n'a pas respecté de simples règles de bonne gouvernance chez Valoris. Alors là, la vérificatrice générale fait ces constats-là, fait des recommandations pour l'avenir. Et effectivement, je pense qu'on a besoin d'un redressement important du côté de Valoris. Mais il en demeure pas moins qu'on ne peut pas réécrire le passé. C'est sûr qu'on ne peut pas corriger ces erreurs-là. Mais en même temps, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sera imputable de ça? Pour moi, la grande question ce matin, c'est quelle est la suite des choses? Et d'ailleurs, hier, la question lui a été posée à la vérificatrice générale. Elle dit, est-ce que la gestion de Valoris pourrait mener à des poursuites? Puis elle a dit que, bon, bien évidemment, ce n'était pas de son ressort, qu'on devait s'adresser à des spécialistes du droit, à des conseillers juridiques, pour ces questions-là. Mais ceci étant dit, je pense que pour les élus, la question se pose parce que c'est quand même des millions qu'on a engloutis là-dedans. Et ce n'est pas une simple erreur une fois de temps en temps. Là.
C'est une série
répétée une série
depuis 2010.
Pendant des années. Pendant des années, il n'y a pas personne qui a tiré la sonnette d'alarme. Alors oui, effectivement, il y a des problèmes du côté de la direction. Il y a un manque d'informations qui n'a pas été... En fait, il y a eu des manques à l'égard du conseil d'administration, mais le conseil d'administration avait l'obligation aussi, je pense, de poser des questions. Alors, qui sera responsable de ça? Est-ce qu'il y aura une suite des choses? Est-ce qu'on va vouloir aller encore plus loin, justement, dans les vérifications qu'on peut faire sur le passé de Valoris? Parce que pour moi, ça laisse plusieurs questions en suspens. Parce que, comme je te disais, ce n'est pas, pas un enjeu ponctuel. Là. Ça a été répétitif pendant des années.
Oui.
Alors, je ne peux pas croire qu'on a laissé ça aller. Puis que nous autres, comme contribuables, on a payé pour ça pendant des années.
Parce que c'est facile de dire, OK, on écoute les recommandations, puis on agit parce que c'est ce qu'il faut faire.
Ben absolument, il faut le faire pour l'avenir.
Mais la deuxième chose, c'est justement, comme tu le dis, savoir qui est imputable. Est-ce qu'il va y avoir des actions ou des sanctions, des conséquences pour les gens qui, pendant des années, ont mal géré à ce point-là? C'est pas des erreurs d'inattention, des fautes de frappe dans un document. Là. On en est à des mille et des mille de ça. Alors, est-ce qu'il va y avoir justement ces dites sanctions? On va en parler d'ailleurs avec la maire.
Absolument. Il faudrait peut-être se questionner aussi si c'est simplement soit de l'incompétence ou si c'est pas autre chose aussi. Alors, je pense que quand on parle de fonds publics, là, il faut aller au fond des choses puis il faut voir quelles sont toutes les possibilités.
Dette de 40 millions de dollars.
Quand même, hein?
Ben, c'est pas du petit change. Autre sujet, on va revenir sur ce nouveau sondage Nanos, les libéraux de Justin Trudeau contre toute attente. On croyait que Andrew Scheer avait le vent dans les voiles et que rien n'arrêterait les conservateurs. Mais bien, selon ce sondage, les libéraux de Justin Trudeau reprennent les devants.
Oui, ils sont sur le chemin de retrouver les voies ensoleillées.
Et il s'est rien passé pourtant.
Non, mais c'est l'été, alors il s'est quand même passé des choses en Ontario, je te dirais. C'est surtout là que ça bouge et c'est surtout cette province-là qui donne des maux de tête aux conservateurs. Alors, ils sont tellement, les conservateurs là-bas, associés à Doug Ford. Et Doug Ford est tellement impopulaire, a tellement eu une session parlementaire difficile que ça traîne les conservateurs vers le bas. Alors, Justin Trudeau peut dire un grand merci à Doug Ford et au gouvernement progressiste conservateur de l'Ontario. Alors, oui, ça va mieux pour les libéraux de Justin Trudeau. Dans le sondage hebdomadaire de Nanos, ils étaient à égalité la semaine dernière avec les conservateurs. Ils étaient 4 points derrière les conservateurs il y a 2 semaines. Hier, 3 points d'avance sur les conservateurs.
Quand même une bonne augmentation.
Ben, c'est une bonne augmentation. Alors, c'est la tendance qui est intéressante. Ouais. Alors, il faut voir qu'il y a une progression de ce côté-là. Et Justin Trudeau aussi creuse l'écart quand on pose la question qui ferait le meilleur premier ministre. Aujourd'hui, il a 6 points d'avance sur Andrew Scheer. C'était 4 points la semaine dernière. Okay. Alors, c'est une bonne nouvelle pour lui aussi, hein, parce que les gens se choisissent, oui, un gouvernement, mais se choisissent aussi un premier ministre lorsqu'ils votent. Donc, la cote de popularité des chefs, elle est très importante. Et ça, ben, ça nous amène à se poser la question, est-ce que finalement, ça va faire en sorte que plus de personnes vont avoir envie de se présenter pour le Parti libéral du Canada? Est-ce que ça va inciter le PLC à accélérer le rythme des investitures? Et là, tu sais qu'il y a un dossier qui nous intéresse ici à Sherbrooke.
Ben oui, celui de Régent Hébert.
Ben effectivement, parce qu'on en a beaucoup parlé au cours des dernières semaines lorsqu'il a lancé sur la place publique sa réflexion. Et puis, bon, on avait évoqué Sherbrooke, puis j'avais dit en onde également, ça se pourrait que ce soit dans la grande région de Montréal. Alors, évidemment, il a mesuré ses affaires, le Parti libéral également aussi a posé des questions, fait des vérifications pour déterminer quelle est la meilleure piste d'atterrissage pour Régent Hébert. Et ce qu'on me dit au Parti libéral du Canada dans les hautes instances du PLC, c'est que ça ne sera pas Sherbrooke. Non, non. Alors, on souhaite l'envoyer dans Longueuil-Saint-Hubert,
okay,
sur la rive sud de Montréal. C'est une circonscription qui est détenue actuellement par le député néo-démocrate Pierre Nantel. Et ça sera une lutte titanesque parce qu'en 2015, le député Nantel a été élu avec 31,2% des voix. Les libéraux avaient fait 30% avec un candidat moins connu, pas de moyens, pas de bénévoles, qui n'avait pas la notoriété non plus de Régent Hébert.
Et le NPD allait mieux à ce moment-là aussi.
Le NPD allait mieux. Et le Bloc québécois, avec le comédien Denis Trudel, qui va remettre ça, hein, qui se représente cette année pour le Bloc dans ce comté-là, avait fait 27,3% des voix. Donc, on peut prévoir encore une fois une lutte à trois. Pierre Nantel avait gagné seulement par 703 voix en 2015. Et je pense que pour Régent Hébert, c'est une bonne circonscription parce que, bon, il a davantage une virginité politique là-bas auprès des militants libéraux qui ne l'ont pas affronté au provincial. C'est un comté néo-démocrate qui pourrait facilement basculer vers les libéraux. Et surtout, Jean-Sébastien, le député néo-démocrate qui est en place a déjà flirté un petit peu avec les souverainistes.
Oh.
On s'est même questionné, ici même, en ondes et dans les médias, au mois de février, s'il n'a pas traversé au Bloc. Alors, il serait bien mal placé pour critiquer le passé souverainiste de Régent Hébert. C'est un bon choix, je pense.
Trois anciens ou actuels souverainistes pour qui voter aux prochaines élections.
Absolument.
Merci beaucoup, Luc.
Ben,
on se retrouve demain. Bye bye.